Face aux multiples exactions de groupes armés sur des civils à travers le pays, le pouvoir de Bangui se voit contraint de négocier avec eux afin d'obtenir la paix et la réconciliation. Et nous sommes en 2019. C'est ainsi que le gouvernement s'est déplacé à Khartoum, au Soudan, pour discuter et négocier avec 14 groupes armés composés à majorité de mercenaires étrangers. Des attentes ont lieu et le document dénommé Accord politique pour la paix et la réconciliation APPR a été signé le 6 février 2019 à Bangui, même si les clauses réelles du dit accord n'ont été dévoilées. Néanmoins, la question du cantonnement des hommes armés, de leur désarmement et de la réconciliation qui pourrait aboutir à la paix sont autant les points mis à la disposition de la presse. Des leaders de groupes armés ont été nommés au poste de responsabilité dans les institutions républicaines. Force est de constater qu'un an après la signature du dit accord politique piloté par l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Firmin Grébada, les six groupes armés considérés comme poids lourds de la rébellion au Centrafrique, à savoir UPC de Ali Darassa, 3R d'Abbas Siddiqui, FPRC de Nureddin Adam, Antibalaka El Mokom, Antibalaka El Ngaïsuna et MPC d'Al-Khatim, tous ont rejoint en novembre 2020 la coalition des patriotes pour le changement CPC, chapeauté par l'ancien président de la République François Bozizé Nguvonda, laquelle coalition a tenté de renverser le 13 janvier 2021 le régime de Bangui. Oui, la question ou les questions principales de ce débat, est-ce que l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale garde encore ses substances? Le gouvernement a-t-il failli à travers la signature de cet accord? Cette entente a-t-elle encore sa raison d'être? Voilà le décor du débat politique d'aujourd'hui. Et M. Gervais Lakosso, coordinateur du groupe de travail de la société civile GTSC, est invité. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando et bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekiluka et de l'émission Pata.
Mes meilleurs voeux pour la
Merci
première fois.
Merci à vous aussi.
Monsieur Alexis Nduyabila, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekiluka.
Ancien chercheur au département de droit à l'université de Bangui, cadre du parti au pouvoir MCU et conseiller politique du président de l'Assemblée nationale, et Karl Blaguet, bonjour.
Bonjour Armando.
Sociologue, secrétaire national à la communication et porte-parole de la marche pour la démocratie et le salut du peuple MDSP. Armando Nguendi, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekiluka.
Voilà, Patara, le débat politique du Radio Ndekiluka, le premier débat centrafricain. Première question à vous, M. Nduyabila. 3 ans aujourd'hui, qu'est-ce que l'accord politique pour la paix et la réconciliation a apporté dans le quotidien des centrafricains? Et on va faire le tour avec cette question.
Je vous remercie, monsieur le journaliste, de cette question.
Armando.
Armando, cette question que vous me posez, logiquement, vous dites qu'est-ce que l'accord de la paix a apporté au changement quotidien du peuple centrafricain? En principe, vous savez, à l'issue de cet accord, depuis l'année dernière, il y a un comité de suivi de l'accord qui a été mis en place, qui gère régulièrement, pond des rapports sur la mise en œuvre de cet accord. Donc l'idéal serait de convoquer les concernés, qu'ils viennent donner un peu la substance.
Alors, vous coupez,
c'est moi, oui, comme d'habitude, quand on les appelle, ils ne viennent pas. Voilà. Parce qu'ils sont quand même spécialisés. Si le chef de l'État a pris soin de mettre en place un comité de suivi, c'est ce comité, normalement, qui devait venir éclairer la lanterne du peuple centrafricain par rapport à la mise en œuvre de l'accord. Alors, vous me posez, moi-même, en tant que même cadre du pouvoir et en tant qu'enseignant, moi, j'ai essayé de réfléchir sur la question. J'ai même, il y a une publication en vue, un cours coordonné par le président fondateur d'un établissement, M. Paul Gressin, qui est un jeune dynamique, et dans le cadre de ce qu'il a fait pour encourager les contributions scientifiques en République centrafricaine, il a créé un centre de recherche et d'analyse géopolitique. Et voilà, et dans ce cadre, il a fait un appel à contribution depuis l'année dernière, et donc porte sur la gestion des conflits en République centrafricaine. Et moi, j'avais soumis un article intitulé « L'évaluation de l'accord politique et pour la réconciliation, pour la paix ». Et ça a été accepté par le comité de coordination. Je rappelle aux auditeurs de Radio Ndekiluka que cette revue est coordonnée par le professeur Jean-François Akanji-Kombe, qui est un professeur des universités. Et quand j'ai envoyé l'article, il m'a répondu favorablement et quand j'ai remonté. Donc, l'article a été soumis à la lecture aveugle des experts, parce que c'est des professeurs de sciences politiques qui sont plus calés que moi. J'ai donc lu mon article et ils m'ont renvoyé le feedback en disant voilà ça, que j'ai fini l'ajustement de l'article en fonction. Et donc, même si le comité de suivi n'est pas là, donc en fonction de ce que
oui, c'est pour cette raison
et
que
donc,
je
moi, je peux apporter. Voilà, donc, ça va revenir de long développement. Quand est-ce que ça a apporté pour le quotidien centrafricain? Bon, je ne m'en tire pas de conclusion hâtive. Comme a tiré hier, vous avez interviewé le président en exercice
de
l'opposition. Et puis lui a dit non. C'est une occasion ratée, rien n'a marché, tout ça. Donc, il y a plein de l'eau de partout, comme la marmite qui a pris de l'eau. Alors, ça, c'est son point de vue. Il joue le rôle de l'opposition démocratique. Et moi, en tant qu'enseignant, chercheur également, bon, vous savez comment on appelle cette intervention et ce qu'il a débité hier sur votre antenne, ici, en Centrafrique. Vous savez comment on appelle ça en sciences politiques? Ça, c'est du bavardage artificiel qui ne repose sur aucun fondement. Du bavardage artificiel, parce que moi qui ai analysé l'accord, j'ai structuré ça en deux parties. Première partie, j'ai essayé de démontrer les preuves de bonne foi parce que je me suis posé une problématique. Ça, c'est la démarche scientifique. La problématique s'articule autour de l'article 2 de cet accord. Que dit l'article 2? Les partis signataires de l'APPRD s'engagent à mettre en œuvre de bonne foi et engagent les responsabilités. Bon, je ne cite pas, parce que je n'ai pas. S'engagent à mettre résolument et le devenir, la paix, la réconciliation en République centrafricaine dépend de l'application de cet article 2 de l'accord. Et maintenant, la question qui se pose, que moi-même, j'ai soulevé, et quand je dis c'est des déclarations artificielles, tout ça, ou bien bavardage officiel, parce que là, hier, il n'a pas convaincu le peuple centrafricain en disant, voilà. Et la question que moi, j'ai soulevé, dit, les différentes parties, ceux qui ont signé les accords, hein, est-ce, comment, quel a été le degré, comment se sont-ils, hein, les parties,
mais,
se sont-elles
acquittées, simple.
Voilà, comment se sont-elles
pour la compréhension des auditeurs.
Il y a eu plusieurs
est-ce que
engagements.
Cet accord a marché selon vous?
Mais non, mais c'est là où j'en viens. Je ne peux pas comme ça dire que ça a marché. Non, je dis qu'il faudrait faire des analyses pour expliquer.
Et des démarches.
Et des démarches. On ne peut pas comme ça tirer une conclusion hâtive. L'accord en soi-même comporte un préambule, 40 articles et des annexes. Il faut analyser ces différents articles, voilà, pour se dire est-ce que ça a été appliqué, ça a été respecté ou pas. Et la question qu'il faut se lever est dire est-ce que les différentes parties se sont-elles acquittées de bonne foi de leur engagement après 2 ans de mise en application.
Voilà, comme d'accord. Vous avez terminé.
Et puis donc, ouais, la question est vaste, je n'ai pas encore abordé, je ne suis pas allé encore en détail.
Vous êtes lent.
Vous dites que j'ai déjà terminé. Vous savez, il faut
non, je vous donne une minute.
Je suis conscient de ce que vous dites.
Voilà, je vous donne une minute.
Quand on a organisé l'émission là-bas, après, du Cameroun, ils ont dit oh, le directeur général, tellement que l'émission s'est très bien, il a accordé une heure supplémentaire. Vous pouvez le dire aussi au directeur général.
Mais en attendant, voilà, c'est comme c'est.
Dites, bon, non, comme
bon, vous ne pouvez pas monopoliser la parole, okay, vous l'entendez directement.
Je donne le.
Non, je vous donne une minute pour chuter.
C'est très détaillé, donc il y a les preuves de bonne foi du gouvernement. Et puis bon, il y a aussi les écarts de conduite de certains groupes. Et donc c'est ça. Et donc, moi je le dis, quand il dit que non, c'est un échec, mais. Il a évoqué des rapports des institutions internes. Est-ce qu'il a même lu les rapports du secrétaire général des Nations Unies qui est allé et qui a dit, moi je l'ai relevé. Réduction nette de la violence, extension un peu de l'autorité de l'État, c'est ce qui ressort du rapport. Et donc ça contribue un peu à la meilleure. Même si c'est un accord qui a été signé, il y a des difficultés. Et puis bon, ben on avance quand même. Mais on ne peut pas dire, c'est un échec total, c'est une occasion manquée, etc.
On y revient.
Il faut être un peu nuancé dans ces propos.
On y revient, monsieur.
On va y revenir, puisque bon, j'ai beaucoup de...
Monsieur Karl Blaguey, vous êtes de l'opposition sur l'utilité actuelle de l'accord politique pour la paix qui totalise aujourd'hui 3 ans.
Merci Armando. Bonjour aussi à tous les auditeurs et à mes co-débatteurs. Armando, je ne sais pas pourquoi on persiste. À chaque fois, on revient sur quelque chose qui a déjà expiré. L'accord de Khartoum, l'accord politique de paix et de réconciliation, je le dis, est caduque. Je rebondis sur le professeur Ndoui qui a cité l'article 2, justement des dispositions de l'accord politique de paix et de réconciliation. Mais je vais le contredire directement. Dans l'article 2, il dit « Tous les signataires se sont engagés. » L'engagement des signataires. Mais si, il y a eu des couacs. Mais il y a l'article 35 qui était là. L'article 35 qui a prévu des sanctions suivies par les garants et les facilitateurs. Mais cet article 35, depuis le début de l'accord politique de paix et de réconciliation, n'a jamais été respecté. D'où l'APPR a fait un bébé, la CPC. Si les dispositions de l'accord politique de paix et de la réconciliation étaient respectées, il n'y aurait pas eu la CPC. Tous les partenaires, et entre-temps, pendant que les signataires à l'époque commettaient des exactions, malgré nos protestations, que ce soit de la société civile, du peuple centrafricain ou de l'opposition, mais le gouvernement de l'époque disait que non, on ne peut pas mettre la main sur eux, on ne peut pas appliquer l'article 35 parce que c'était les partenaires du gouvernement. Et en plus, un autre article, l'article 16, concernant les aménagements sécuritaires transitoires. Ils ont mis en place les unités spéciales mixtes, USM. Vous vous souvenez, Armando, à Boire, il y a eu un incident où la plupart des éléments combattants des forces signataires, des mouvements, des groupes armés signataires de l'accord politique de paix et de réconciliation se sont mis en grève, se sont énervés. Tout simplement parce que au niveau des unités spéciales mixtes, il n'y a pas eu justement le respect des engagements. Donc je me focalise sur ces trois articles, 35, 4 et 16 de l'accord politique de paix et de réconciliation. Et pour aboutir à quoi ? À un échec. Pour aboutir à un échec. C'est vrai peut-être qu'il y a eu des petites avancées de 2%, mais d'une manière globale, l'accord politique de paix et de réconciliation est un échec, Armando.
Votre lecture, M. Gervais Lakosso, au nom du peuple centrafricain, parce que c'est le rôle de la société civile, sur l'existence de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, APPR.
L'accord politique de paix et de réconciliation n'a pas apporté grand-chose dans la vie du peuple centrafricain. Je ne serai pas trop sévère pour dire que ça n'a rien apporté, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Je peux dire que ça a été un mauvais choix de la part du chef de l'État. Et à l'époque, on pouvait le comprendre. Pourquoi il était obligé de faire ce choix? Parce qu'il était dos au mur, parce que les groupes armés, ce qu'on appelle rapport de force, étaient plus forts que les forces régulières. Et l'assistance militaire internationale qui était là n'assurait pas. Donc il n'avait pas d'autre choix que d'aller dans cette direction. La preuve, c'est que nous, au niveau de la société civile, on a tout fait pour soit empêcher cet accord ou réorienter le contenu de cet accord. On n'a pas réussi parce que la société civile, on s'est réunis, on a fait une conférence citoyenne de la société civile, on a écrit un mémorandum de 35 pages qu'on a envoyé au chef de l'État. On a insisté à ce que la société civile, les partis politiques, tout le monde participe et que cette assise-là se tienne au territoire centrafricain pour vider la situation. Mais l'orientation qui était donnée par la communauté internationale était différente et pompeusement, on nous disait que c'était l'unique alternative pour sortir la République centrafricaine de la crise. Alors vous voyez, le chef de l'État, ce n'est pas pour le dédouaner, mais à l'époque, il n'avait pas beaucoup de choix. Bon, Si moi j'étais à sa place, je ne ferais pas ce choix. Parce que moi je suis quelqu'un de créatif, je peux inventer. Et c'est l'absence d'une proposition. Parce que le président Ouattara, en matière de résolution de la crise, à mon avis, était arrivé au pouvoir les mains vides. Il n'y avait aucune proposition concrète. Comment lui-même il a.
Tout en sachant qu'en venant, il y a des crises qui.
Mais c'est là le défaut, la faiblesse des systèmes. Politiques, des mouvements politiques, des hommes politiques centrafricains. Eux tous, ils battaient campagne pour venir diriger un pays profondément en crise. Mais ils sont arrivés au pouvoir, les mains vides en matière de résolution de la crise.
Mais non, je reste avec vous, M. Lakosso, tout en sachant que le président de la République, en 2015, il savait que la situation était très dure, mais il s'est engagé. Comment est-ce que vous pouvez déjà dire qu'il vient au pouvoir, il n'a pas vides. De proposition
mais c'est, moi je parle avec la réalité, parce que quand Ouattara a pris le pouvoir en 2016, c'est en 2019 que cet accord a eu lieu. De 2016 à 2019, s'il avait mis en place une démarche pour résoudre cette crise, la communauté internationale n'allait pas s'ingérer pour nous imposer l'accord de Khartoum. C'est parce qu'il n'y avait rien de sérieux et de concret qui se passait. Voilà. Et ça veut dire que ce n'est pas les propositions qui manquaient. La société civile en faisait, la plateforme des religieux en faisait, mais les autorités ne les acceptaient pas. Et c'est fait. Alors la chose la plus curieuse de notre point de vue de la société civile, c'est le fait de continuer à croire à cet accord-là. Cet accord qui s'est auto-disloqué. Cet accord-là n'existe plus juridiquement. Parlons, même politiquement parlant, même selon le bon sens, cet accord n'existe plus. Parce que presque tous ces dispositifs ont été violés. L'article 2, on parle de, d'un engagement de bonne foi partout
des
signataires. Est-ce qu'il y a eu la bonne foi de la part des signataires? De la part du gouvernement, oui, il y en a eu. Le gouvernement a fait tout, presque tout ce qu'il fallait faire. Le gouvernement a fait même des sacrifices anticonstitutionnels. Anticonstitutionnel. Le président Touadéra a violé la Constitution. Pour lui, il faisait ça pour avoir la paix. Mais de l'autre côté, il n'y a pas eu la bonne foi. Il n'y a pas eu la moindre bonne foi. On leur a donné tout, on leur a livré le pays sur un plateau d'or, mais ils ne nous ont pas donné la paix. On a fait ça pour acheter la paix, mais on n'a pas eu cette paix.
Mais dans ce cas, je reviens vers monsieur...
Je n'ai pas fini. Hein.
Vous avez
non, je n'ai pas fini. Mais les autres ont plus de temps. Non, laissez-moi finir.
Vous avez fait 5 minutes vous seul.
Avant.
Oui,
je ne savais pas que j'ai...
Bon,
je finis, je finis. Voilà. Quand on prend la parole, on ne se rend pas compte.
Voilà. C'est moi qui j'ai réussi.
Ce qui veut dire que cet accord a été un échec parce que le contenu s'est vidé. Les parties à cet accord se sont mis en conflit à nouveau entre eux. Une bonne partie sont allées faire la CPC, c'est-à-dire les conséquences, les preuves palpantes de l'échec, c'est la CPC. Et c'est la naissance d'une nouvelle démarche, on n'en parle pas, la feuille de route de Luanda. Les gens sont encore à nouveau réunis là-bas. Les uns ont signé des accords de cessez-le-feu. Le gouvernement aussi a proclamé un cessez-le-feu unilatéral. Mais en réalité, ce n'est pas unilatéral. Ça a été négocié à Luanda, à part la CPC, l'UPC qui fait le malin. Normalement, nous sommes dans un contexte de cessez-le-feu. Donc, la PPR, pour moi, je ne comprends pas. Il faudrait qu'un jour... que ce soit le président de la République ou ses conseillers politiques, nous expliquent au peuple centrafricain que nous sommes, pourquoi on continue de travailler avec la PPR. Pourquoi ? Parce que le contexte n'est plus le même. Le président de la République n'a plus l'épée de Damoclès sur la tête. Militairement, c'est les forces régulières et les alliés qui dominent. Il y a 90% du territoire national est contrôlé par l'État. Alors, mais pourquoi continuer encore ? C'est un PPR. Parce que dans cet PPR, ça veut dire qu'il faut ramener encore les Ali Daras, les consorts, dans les gouvernements de notre pays ?
Non.
Ah non.
Mais parlons du caractère juridique de l'accord. Hein. Des observateurs sociaux ont estimé que les clauses de cette entente entre le gouvernement et les groupes armés ont violé la Constitution. Si oui, est-ce que le président de la République, dans l'idée, comme a dit M. Lacosso, de violer la Constitution pour chercher la paix, acheter la paix pour le peuple centrafricain, mais jusqu'à présent, si ce... à qui on a tendu la main aujourd'hui, ne veulent pas respecter, faut-il continuer à s'attacher à cet accord?
Mais c'est un accord qui est encore en vigueur. Si cela qu'on se dit, c'est caduque et que ça n'existe pas juridiquement, c'est un accord qui a été signé en 2019 et dont on ignore la validité. Donc, alors, je suis vraiment sidéré d'entendre les uns et les autres dire.
Est-ce que
je suis juriste, hein,
sur
le plan juridique, j'attends. Parce que jusqu'à présent, ce n'est qu'une réponse politique. J'attends vraiment une réponse juridique.
Les accords en droit, les accords légalement signés, tiennent lieu de loi entre ceux qui l'ont signé. Dans l'accord de Khartoum, on n'a pas indiqué le délai de validité, que bon, ça commence à telle période, ça s'arrête là. C'est un accord de paix et de réconciliation. Hier, j'ai écouté, il y a le responsable de l'opposition, simplement, il a zappé l'autre terme, pour utiliser le vocabulaire des jeunes, il a zappé la réconciliation, il s'est focalisé sur la paix, pour dire ce qu'il pense. Alors, le « et » est une conjonction de coordination, il y a deux termes, paix et réconciliation. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on ait la conscience tranquille, s'il faut. Je ne peux pas comme ça, à partir de rien, et ce que moi je dis, c'est une argumentation scientifique que j'ai examinée. Il faut, point par point, on n'aura pas le temps. Tout à l'heure, Karl a cité des articles, moi également. Quand on prend l'article 26 qui dit bon, parce que l'article, moi je me suis intéressé à l'étude en mappant sur les engagements à caractère immédiat. Caractère immédiat, puis dans l'accord on dit, il y a les termes qui indiquent cela. Sans délai, immédiatement, dans un délai transitoire, etc. Et puis on voit dans l'accord. Et en deux ans, qu'est-ce qui s'est fait? Et donc quand on regarde, par exemple l'article 26 dit, le président de la République s'engage à mettre immédiatement en place un gouvernement. Ça veut dire qu'on l'a forcé en quelque sorte. dans un régime démocratique, on ne dit pas au chef de l'État à mettre en place immédiatement un gouvernement inclusif, immédiatement. On lui en quelque sorte, mais il a accepté, comme la Kossou l'a dit tout à l'heure, au nom de la, puisque c'est la politique au sens noble. C'est l'art de gouverner l'État et d'organiser le vivre ensemble, selon l'approche aristotélicienne. Organiser, et c'est dans ce sens-là, la main tendue. Et donc il a dit, ok, il a mis en place au lendemain, voilà un article. Rapidement, un gouvernement a été mis en place. L'article 4, ouais, l'article a évoqué, 4, oui, comporte au moins une vingtaine de sous, parce que dessous, il y a des points H où il faut, on demande au gouvernement de faire ceci, de voter des textes de loi. Ben, on a écouté le président sortant de l'Assemblée nationale, il a égrené, il a dit voilà, dans ce sens, voilà le travail abattu par les députés de la 6e législature dans le sens de faire respecter. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup. Mais pourquoi vous me faites signe d'arrêter ?
Allez-y.
Vous
avez fini. Allez-y.
Ben, voilà. Fait signe de chuter. Et donc, on ne peut pas dire. Et puis, vous voyez, donc, quand l'accord a été signé, c'est pas parce que. Moi, je refute en bloc l'argument. Et puis, je pense que ça a été revu par la Cosa tout à l'heure. Et puis, vous-même, vous l'avez dit dans votre introduction, il y a des poids lourds de l'accord qui sont sortis. Aucune stipulation de l'accord de Bangui ne fait allusion à des groupes rebelles poids lourds et à des groupes rebelles moins lourds. Ça n'existe pas dans l'accord. Une partie a décidé d'aller signer l'accord de Kambakuta, mais il y a certains qui sont restés encore dans le groupe.
Mais, c'est pas mais, parce que mais parlons de rapport de force entre les groupes armés.
Rapport de force, nous, moi, j'interprète.
Mais c'est
le texte.
Ça qu'on appelle
poids lourd. Il n'y a pas de rapport de force. Mais là, dans le texte, l'accord ne parle pas de rapport
de force. Le rapport de force de l'UPC d'Ali Darassa, par exemple, avec les
l'accord
autres.
L'accord dit, le chef de l'État a signé l'accord avec 14 groupes armés. On ne nous en dit pas plus, on ne dit pas, voilà, il y en a qui sont 8 super puissants et les autres, ça n'existe pas. C'est des oui, pas oui, groupes armés. Qui se valent. Et le chef de l'État, l'année dernière, a convoqué un comité de suivi, tout ça, pour la redynamisation et donner autre narration.
Vous avez
lorsque
terminé.
Lorsque ces groupes, oui,
pour la raison du temps,
on les a éjectés du gouvernement.
Bon.
Ça conduit certains journalistes ont dit, moi j'ai écouté, et puis ça c'est Tsunami. Tsunami qui l'a dit, un titre intéressant. Il a dit, la fin officielle et définitive de la danse macabre de Khartoum. Oui, bon. Donc ça veut dire, donc c'est bon.
On m'a donné officiellement la parole.
Je vous donne la parole, monsieur Lakosso.
Alors, moi je suis personnellement déçu que monsieur Yabela n'ait pas pu répondre juridiquement à la question. Il a fait un développement politique. Moi, je ne suis pas juriste, mais je suis cultivé. Et je sais qu'un accord, c'est un engagement entre au moins deux parties. Et à partir du moment où une partie quitte volontairement l'accord, l'accord est dissous. Les effets de l'accord sont dissous, sont éteints.
Et ceux qui sont restés ?
Et nous sommes dans cette situation. Parce que vous savez, le grand défaut des intellectuels centrafricains qui sont dans la politique, ce qui se passe aujourd'hui, si l'accord de Khartoum continue, je viens de me rendre compte, hein, séance tenante, que ce n'est finalement pas la faute de Touadéra, mais c'est la faute des intellectuels qui sont dans son entourage, qui le conseillent très mal. Parce que non, la preuve, c'est le développement que M. Abila a fait, c'est un développement totalement politique. Il n'y a rien de juridique dedans. Parce que si certains restent, il fallait renégocier un nouveau contrat avec ceux qui sont restés. C'est la logique. C'est la logique. Et parce que...
Et réorienter peut-être, selon
voilà,
vous.
Réorienter et définir des nouvelles conditions de collaboration avec ceux qui sont restés. Et puis, je ne sais pas ce que cette personne de l'opposition a dit, je n'ai pas écouté. Moi aussi, l'accord politique de paix et de réconciliation. Réconciliation, c'est insensé. Parce que quand on dit réconciliation, est-ce que ces groupes armés, c'était des mouvements centrafricains qui étaient en conflit entre eux, tout ça? Non, c'est des gens qui ont soif de pouvoir, ou c'est des étrangers qui sont arrivés ici, qui veulent profiter des richesses de notre pays. Ils étaient en conflit avec personne. Il n'y a pas de réconciliation à faire, c'est des ententes politiques pour arrêter le conflit. La preuve, c'est que quand ils n'ont pas trouvé leur compte ici, ils sont repartis encore dans la CPC pour faire la même chose. Maintenant qu'il y a eu une réponse militaire, la bonne réponse qu'il fallait leur donner, mais ce mouvement est en train de se stamper. Et là encore, l'intelligentsia politique n'est pas capable de suggérer au chef de l'État les bonnes démarches qu'il faut. Il y a le dialogue républicain qui est là, qui est une bonne démarche. Il fallait trouver des inventions politiques, des imaginations pour que ce dialogue-là soit la seule superstructure qui règle tous nos problèmes. Parce que s'il y a le dialogue républicain
Et puis, il y a encore les dialogues de Khartoum, les ci, les ci. Mais le chef de l'État va avoir à gérer combien de résolutions. Il nous en faut. Et ce pays n'est pas là seulement pour résoudre des crises. On doit commencer à penser au développement du pays. Parce qu'il y a certains qui ne restent qu'ici, à Bangui. Ils ne bougent pas. Ils ne savent pas ce que les Centrafricains vivent dans l'arrière-pays. Les Centrafricains ont besoin du développement. Les Centrafricains ont besoin de développement. Et tant qu'il n'y a pas de développement, il ne peut pas avoir la paix. Parce que si aujourd'hui, les groupes armés ont fini par les neutraliser, on signe tous les accords avec eux, on les met dans les institutions, ils se calment, le problème de développement va se poser. C'est le peuple qui va se lever maintenant pour réclamer des routes, de l'électricité, de l'eau, des écoles et tout ça. Et il faut s'occuper de ça.
Je tourne vers vous, hein, M. Kalblag. Et si la Constitution interdit que les membres de groupes armés ou des personnes qui ne jouissent pas d'une bonne moralité hein, ne doivent pas être responsabilisées dans les fonctions de l'État, la nomination 2019 d'Ali Darassa, par exemple, de Sidiki, d'Al-Khatim, actuellement d'Hassan Bouba, ministre de l'Élevage, et bien d'autres, constitue-t-elle une flagrance pour le président Touadéra?
Oui, bien sûr, mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, le chef de l'État n'avait pas de choix, il était dos au mur. Il s'est fait violence et il a violé la Constitution pour arriver à un accord politique. Bien que l'opposition à l'époque et la société civile s'étaient mis en porte-à-faux à l'accord politique de paix et de réconciliation, dit accord de Khartoum. D'ailleurs, pour aller mettre ça en place, le gouvernement, le chef de l'État à l'époque a écarté la société civile et les leaders de l'opposition. Donc ils sont entourés rien que des, comment on appelle, des groupes armés. Et on a vu ce que ça a donné. Donc le chef de l'État s'est fait violence, il a violé la Constitution... Et il reçoit l'effet boomerang. Parlons de Hassan Bouba et des autres partenaires du gouvernement. Je m'inscris dans la dynamique et dans le contexte de l'accord de Khartoum. Parce qu'à l'époque, malgré qu'on criait sur les micros, dans les médias, l'ancien chef du gouvernement à l'époque avait persisté. Non, les groupes armés sont les partenaires du gouvernement. Maintenant, le gouvernement a été victime de ses propres partenaires. L'effet boomerang étant là, je ne suis pas sûr que le chef de l'État, s'il veut vraiment corriger ce genre de tare, puisse persister dans l'accord de Khartoum. Ni dans l'esprit, ni dans la lettre de cet accord-là, le pouvoir politique, c'est-à-dire le gouvernement, ne peut en aucun cas continuer justement à utiliser ça comme document de base. La Commission internationale de la région des Grands Lacs, le CIRGL, avec la CAC, ont mis en place une nouvelle feuille de route qui, je pense, que se substitue logiquement à l'accord de Khartoum. Et vous avez encore le dialogue républicain qui est en train d'être conçu. Le format n'est pas encore adopté, mais au fur et à mesure, si ce dialogue républicain est vraiment inclusif, ce dialogue, pardon, républicain, peut se substituer à l'APPR.
On peut englober peut-être l'APPR.
Mais bien sûr, mais nous avons les bases déjà du forum de Bangui. Le forum de Bangui a jeté les bases. Donc, dialogue républicain doit logiquement se focaliser sur le forum de Bangui et de facto annule l'APPR. Je ne vois pas pourquoi le chef de l'État persiste et signe par rapport à l'APPR. L'APPR est caduque, déjà, au niveau de l'article 35. Le gouvernement et les garants et facilitateurs ont été incapables de prendre les mesures de sanction. On a vu comment il y a eu des exactions des deux côtés. Il n'y a pas eu de sanction. Et au niveau de l'article 4, je reviens dessus, l'article 16, pardon, concernant les aménagements sécuritaires transitoires. On a inclus des combattants des groupes armés avec les FACA pour des patrouilles mixtes, mais ça n'a pas marché. Donc, il y a eu tellement de
avec
clauses.
USMS,
oui, voilà, bien sûr, ça n'a pas marché récemment. Entre-temps, à boire. Vous avez vu un peu le mécontentement de certains éléments inclus justement dans les USMS. Ça n'a pas marché. Donc, je pense que l'accord, non seulement doit être abrogé, mais reformulé. Et nous allons vers le dialogue républicain que je souhaite inclusif. Je pense que c'est le moment d'inclure ça dans les différentes thématiques sur lesquelles les gens vont se pencher, justement. Est-ce que l'APPR doit continuer ou non? Il faudrait inscrire ça dans les nouvelles thématiques qui seront développées au niveau du dialogue républicain inclusif.
Avec vous, M. Kalblag, en quoi l'APPR est un marché de dupes?
En quoi l'APPR? Mais en tout, puisque déjà, le chef de l'État s'est fait violence, il a nommé des leaders. Vous parlez d'Ali Darras, ministre conseiller. Hassan Bouba, ministre de l'Élevage. Qui a même été arrêté par la Cour pénale spéciale et qui a été libéré, qui jouit toujours de ses droits politiques et administratifs. Il est ministre de l'Élevage sans que le gouvernement ne puisse réagir. Il est là, il a été interpellé, il a été libéré. Mais c'est ça, ça fait partie de l'accord de dupes. Donc on laisse les criminels en liberté Et maintenant, on poursuit les leaders d'opposition qui sont dans la démocratie. Mais c'est ça l'accord de dupes. Le chef de l'État est tombé dans son propre piège. Il ne fait que recevoir l'effet boomerang de l'accord politique de paix et de réconciliation. C'est ça l'accord de dupes.
Nous sommes en train de nous embourber.
Allez-y, vous avez déjà pris la parole.
C'est un accord, un document juridique qu'on doit expliquer, interpréter. Car là, il est sociologue et pouvait sociologue. Bon, c'est un peu difficile. S'il y avait des juristes en face de moi, peut-être m'aurait compris.
Tout à l'heure, nous comprenons le droit, monsieur Abela. Nous comprenons le droit.
Quand il me dit d'expliquer juridiquement, c'est parce qu'un accord a été violé que cet accord est caduque. Non, même tout règle. Même le code pénal est régulièrement violé par les Centrafricains. Ça veut dire que le code pénal n'existe pas. Voilà l'argument.
Mais quand les parties qui.
Voilà.
Quand
donc le code pénal est régulièrement violé par sans même vous et moi. Et donc ça veut pas dire que le code pénal n'existe pas.
Permettez-moi, Armando. Excusez-moi, monsieur Abela. Tout le respect que je vous dois, la précision que nous voulons de vous. En tant que juriste, laissez-moi vous poser la question, c'est Armand qui pose les questions. Mais quand des parties quittent un accord, est-ce que cet accord demeure encore? Quand ils quittent, ils disent clairement qu'ils ne font plus partie de cet accord et qu'ils prennent les armes contre leur ancien allié.
Je peux compléter, est-ce que les clauses, même clause
pour l'accord de Khartoum, il y avait combien de parties? Il y avait le gouvernement.
Ça fait 14.
A-t-il quitté l'accord? Non. Il y a 14 groupes armés. Ça, juridiquement, c'est ce que vous voulez que je demande. 14 groupes armés. Une partie a décidé d'aller signer un accord. Et les autres qui sont restés, vous les prenez pour qui? Ce sont des ministres à peine. Ils n'ont pas signé l'accord?
Il est close.
Voilà. Est-ce que c'est toujours
non,
le même accord?
Non, mais non. Et nous autres, ben voilà. Et justement, c'est dans ce sens que le chef de l'État a dit de faire un bilan de l'accord pour la redynamisation de l'accord. Et les autres qui sont restés, comment on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez, il y a une. Vous, juridiquement, ceux qui sont partis. Ben, on déclenchait ce qu'on appelle en droit la clause de rebus sic stantibus. C'est un changement fondamental de circonstances qui est intervenu dans l'exécution du contrat et automatiquement, le chef de l'État n'a pas lésiné, a pris des décrets pour expulser du gouvernement, de la présidence de la République, de la primature et du gouvernement des représentants des groupes armés qui ont signé l'accord de Kambakuta. Et alors? Vous dites où est le problème? Donc, ça veut pour vous que si on a fait expulser, l'article 5 prévoit quoi? Attendez.
Pourquoi ne pas réorienter, par exemple, parce qu'ils étaient 14 au départ et puis 8
mais sont restés. Pourquoi c'est pour ça on ne peut
pas réorienter les idées? Attendez, est-ce que l'accord reste le même
c'est pour
comme
ça je dis,
on a signé le 6 février?
Il y a eu beaucoup de dons sur la scène politique centrafricaine et donc on bilance. La démarche, initialement, c'était pour les groupes armés qui ont pris les armes. Avec le chef de l'État, le gouvernement discute autrement. On sait qu'il y a les partis politiques, il y a la société civile, etc. C'est là le dialogue politique en préparation qui est le cadre idéal. Ça, je pense que la demande du chef de l'État, c'est de dire ceux qui ont pris les armes, etc., on négocie avec eux différemment. Mais maintenant qu'ils n'ont pas respecté, il y a des mesures, je pense que c'est de la Cour européenne. Maintenant que le gouvernement a pris un peu le dessus, il y a des forces là qui interviennent pour rétablir l'ordre. Alors, est-ce qu'on peut. Mais pour moi, ceux qui sont restés dans l'accord, qu'est-ce qu'on fait? On dit. Bon, ils sont. Il y a Toumoudia, par exemple, en vertu de cet accord, qui est resté ministre dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit donc, on l'explique au gouvernement, alors que lui, il a respecté l'accord.
Il
ne faut pas aller trop vite en besoin.
On écoute M. Lacoste.
Tout le monde s'est retiré.
Non, vous avez terminé.
C'est cette expression-là que moi, je ne veux pas. Tout le monde s'est retiré.
Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà évoqué. On écoute M. Lacoste.
Et là, et toujours, je demeure sur mes soifs. Rien ne me convainc au jour d'aujourd'hui que cet accord a été utile à notre pays. Nous avons compris les contextes qui ont obligé les autorités de notre pays à le signer, mais nous ne comprenons plus ce qui les oblige à maintenir cet accord. Et si vous circulez dans le pays, quelqu'un comme moi qui a eu la chance d'aller beaucoup dans l'arrière-pays ces derniers temps, les Centrafricains ne comprennent pas, ils n'en veulent pas. De cet accord, surtout maintenant que les forces régulières de notre pays sont en position de force, on ne veut plus de cet accord. Et nous ne voulons pas qu'il y ait deux entités, des multitudes de choses qui troublent le développement du pays parce que ça aspire de l'argent. Le dialogue républicain doit être au-dessus de tout et les autres doivent disparaître. Parce que, par exemple, je prends deux exemples. 90 jours après la signature de cet accord, les groupes d'armées devaient s'auto-dissoudre.
Article 5.
Voilà. Donc, normalement, le vocable groupe armé ne devait plus exister. Voilà.
Et donc, ça veut dire que 3 ans aujourd'hui, si ça ne marche pas, on devait.
Voilà.
On
et devait puis aussi une autre chose, Armando, et ce que tout le monde oublie, le président Touadéra actuellement, c'est un nouveau président. C'est un ancien nouveau président.
Pour son nouveau quinquennat.
Voilà, c'est pas le même Touadéra qui a signé cet accord. Supposons que si c'était quelqu'un d'autre qui avait pris le pouvoir, qui était élu par le peuple.
Est-ce qu'il allait continuer cet accord? Je ne pense pas.
Si
alors, mais pourquoi Tadira le continue?
Mais si vous me permettez, M. Lakosso, je reviens sur ce que vous avez dit sur la question et puis poser à M. Ndouyabila qui représente le parti au pouvoir. Si l'accord prévoit la dissolution de groupes armés ou du moins c'est le désarmement et le cantonnement des rebelles, mais depuis 3 ans, ni ceux qui sont encore fidèles à l'accord n'ont même pas commencé à cantonner leurs éléments.
C'est, le point
c'est
de
quoi
la...
le vrai problème?
Mon frère, le blague, il a dit.
Ouais.
C'est le non-prise de sanctions par les garants. Et
l'article
là, on est
35.
Parfaitement d'accord. Article 35.
Donc, ça veut dire que est-ce que l'accord est encore...
Le représentant, le président de l'agriculture de Côte d'Ivoire est revenu là-dessus, il a critiqué, et moi également, dans l'article, je suis revenu dessus, l'un des experts, parce qu'on m'a renvoyé les éléments d'appréciation, l'un des experts là-bas, il m'a dit oui. Analyse vraiment pertinente, parce que je m'en suis pris au ce qu'on appelle des diplomates. Il y en a un qui dit non, il ne faut pas critiquer la diplomatie, mais l'autre a dit non, elle est pertinente. Ben, les garants et facilitateurs sont restés pusillanimes. On laisse, il y a des mesures de sanction, il fallait appliquer rapidement pour enrayer.
Donc ça veut dire que vous rejoignez M. Calbadi et M. Lakosso qui parlent de la caducité de cet accord.
Non, on ne parle pas de la caducité.
De la futilité même de cet accord. Bien sûr.
Ce n'est pas la caducité, mais la redynamisation de l'accord.
Mais pourquoi continuer à suivre quelque chose qui ne nous bénéficie pas? Quel est le bénéfice que l'État centrafricain tire dedans?
Il y a des groupes armés qui sont restés.
Quel est le bénéfice que le peuple centrafricain tire dedans?
Il y a certains groupes armés qui sont restés.
Je pense qu'avec Ndoui et Lakosso, on pense la même chose, mais on ne l'exprime pas de la même manière.
Non, mais parce
je pense que M. Ndoui sait qu'en parlant de redynamisation, on ne peut pas redynamiser quelque chose qui fonctionne. Donc ça signifie qu'il y a une caducité au niveau de l'accord de Cap.
Au lieu de redynamiser, il faut dissoudre.
Il y a des difficultés dans la mise en œuvre, on peut redynamiser, c'est ça?
Non, c'est une question
c'est une
de courage politique,
c'est une humaine,
à mon avis. Si vous permettez,
oui, allez-y,
c'est une question de courage politique. Il faudrait que l'entourage du chef de l'État l'encourage à mettre fin à cet accord. Rien ne l'empêche de le faire. Rien ne l'empêche de le faire. Le peuple n'en veut pas et il a les possibilités de le dissoudre aujourd'hui. C'est
pas
comme en 2019.
Il ne peut pas prendre un décret.
Non, mais bien sûr.
Il ne peut pas prendre un décret pour dissoudre l'accord.
Mais si l'État centrafricain
c'est un accord synalagmatique, c'est-à-dire entre plusieurs parties.
Mais quel est le vrai terme politique?
C'est pas un terme politique, c'est un terme juridique.
Non,
c'est pas un terme politique.
C'est des juristes.
Un contrat synalagmatique, c'est un contrat synalagmatique.
Mais ça, vous endormez le chef de l'État avec ça.
Il faudrait les parties, ceux qui sont restés avec le chef de l'État, ils disent bon, c'est fini, on met un terme à l'accord. D'accord.
Bon, mais nous, on n'est pas là pour faire la volonté des groupes armés.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà. Ce que le peuple veut. On ne veut plus de cet accord-là.
Voilà,
on ne veut plus que le gouvernement continue à
faire
des traitements de faveur.
À ce moment-là, il faut faire
des traitements de faveur aux groupes armés. Oui. Et parce qu'il y a une instance qui est mise en place, le dialogue républicain. Et maintenant, tout le monde doit laisser les armes et venir en tant que citoyen. Venir en tant que citoyen, parce que c'est une occasion aussi pour se réconcilier. Ceux qui se sont trompés hier, qui s'engagent aujourd'hui à ne plus reprendre les armes, ils reviennent, on parle d'une seule langue entre nous. Et puis c'est fini.
Monsieur Ndoui, vous avez prononcé un mot. Vous avez prononcé un mot qui m'a interpellé. Vous avez parlé de mémorandum. Est-ce qu'en allant vers cet accord de Khartoum, en discutant de cet accord, est-ce qu'on a consulté le peuple centrafricain?
C'est un accord. Un acte qui pose, on n'a pas besoin de. On doit organiser un référendum pour.
Parce que vous avez dit, vous avez parlé de référendum tout à l'heure.
Non, je n'ai pas dit référendum, mémorandum. Je dis sur la base de développement, la cause, il a fait un mémorandum lors du dialogue politique républicain. C'est des informations, c'est un sujet qu'on peut débattre. S'il dit non, on n'a plus besoin de ça.
S'il faut le faire, on doit le faire avant le dialogue.
Avant le dialogue, c'est une résolution qu'on ne peut pas imposer désormais. Voilà, le peuple a décidé ça. Mais pour aller négocier avec le groupe armé, le chef de l'État n'a pas besoin d'organiser un référendum pour ça.
Monsieur Carl Blagué,
il est représentant, il peut discuter. À partir du moment où il représente déjà la RCA à l'international, avec les groupes armés, il peut aller discuter. Donc,
les groupes armés reconnus très proches du pouvoir à l'époque ont claqué la porte de l'accord pour rejoindre la CPC. Est-ce qu'on peut dire que les pourparlers n'ont pas été tenus sur la franchise des deux parties?
Mais bien sûr, mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure à Armando. Les clauses de l'accord politique de paix et de réconciliation n'ont pas été respectées, ni au niveau du comité de suivi, et notamment l'article 35. Il y a un comité de sanctions qui devait être géré par les garants et les facilitateurs. Il y a eu combien de violations de ces clauses, Armando? Des deux parties. Donc, je ne sais pas, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Les deux parties ont violé ces clauses. Et le chef de l'État, comme l'a dit Lakosso, il n'est plus le premier chef d'État de 2015, effectivement. Peut-être qu'il est devenu un lynx ou un tigre, parce qu'il y a une nouvelle variable qu'il ne faudrait pas négliger. Parallèlement à l'accord politique de paix et de réconciliation, où le chef de l'État était dos au mur, mais il y a une nouvelle variable, avec l'arrivée des alliés russes. qui ont modifié un peu le comportement du chef de l'État dans les négociations et dans le respect de certaines clauses. Donc il y a eu la situation russe qui est là. Et ça a carrément changé, le chef de l'État a changé d'orientation et d'option. Puisqu'il se dit, écoutez, j'ai des soldats à ma disposition, donc ils seront prêts à mater la rébellion, même en violant les droits humains, même en violant même les FACA ou nos populations. Donc c'est comme s'il a pactisé avec le diable, tout juste pour finir avec, soi-disant, les groupes armés. Donc cette nouvelle variable, Wagner, c'est-à-dire allié russe, entre guillemets, a poussé le chef de l'État à changer de méthode. Donc je pense que le chef de l'État lui-même doit voir l'accord politique de paix et de réconciliation comme un chiffon. Je ne sais pas pourquoi le professeur Nduit, c'est-à-dire qu'il n'est plus d'actualité. Non, qu'il n'est plus d'actualité, entre guillemets. Qu'il n'est plus d'actualité.
Calmez-vous, vous allez prendre la parole. En parlant de la franchise, pour parler à l'époque de cet accord de paix, monsieur Lacosson.
Bon, il y a eu des observateurs qui étaient à Khartoum. Des collègues de la société civile, tout le monde était là-bas comme observateur. Il n'y a pas eu dialogue à Khartoum. On a tout imposé au gouvernement. L'accord a été rédigé par l'Union africaine. Comment il s'appelle, l'ancien commissaire à la paix de l'Union africaine, Ismaël Cherghi. C'est son œuvre. C'est lui, il a tout rédigé. Et puis, pompeusement, ils ont dit que c'est l'alternative. Alors qu'il n'y a eu aucune création. C'est l'accord d'Alger qu'il a pris, l'accord d'Alger entre le gouvernement malien, qui a fait de copier-coller. Et il y a même, si vous lisez, il y a même des termes qui restent dedans qu'ils ont oublié de modifier. Ça veut dire qu'on a suivi aveuglément quelque chose. Et il n'y a pas eu débat à Khartoum. On a tout imposé au gouvernement. Et justement, c'est ce qui fait mal aujourd'hui au peuple centrafricain que nous sommes. C'est le fait de continuer à s'accrocher à cet accord que mon aîné, que j'aime bien, ici, juridiquement, il trouve des arguments qui enlèvent tout à cet accord, mais il pense qu'on peut... Non, on ne peut pas. Ici, aujourd'hui, il s'agit de se mettre dans un contexte républicain. Ce n'est pas une question de Touadéra, de MCU, de parti politique. C'est une question de la République centrafricaine. Qu'est-ce qui est bien pour la République centrafricaine au jour d'aujourd'hui? Dans le contexte actuel, nous ne sommes pas en 2019, nous sommes en 2022. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pacifier le pays? Quelles sont les voies à engager? Ça, c'est simple. Les choses qui ne nous ont pas apporté quelque chose de bien, on ne va pas continuer de les suivre. Et puis, on dit que personne ne peut manger avec la bouche d'un autre. L'accord de Khartoum, c'est l'œuvre de Ismaël Cherghi. C'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants. Et maintenant que ça n'a pas marché, on met ça de côté. On se tourne vers autre chose. Le dialogue républicain, c'est une proposition de gouvernement Touadéra. C'est maintenant qu'il nous montre en quoi il est capable de nous diriger, de nous ramener la paix et de mettre les bases du développement. Et nous, le peuple, on est là pour observer. On est là pour observer.
Vous allez observer et puis tout le monde va observer ce qui va arriver. Monsieur Nduya Bella, sur cette question de franchise, vous voulez répondre aussi avant qu'on puisse évoluer?
Je veux dire que non, moi je dis le chef de l'État, hein, il est toujours dans sa dynamique de la politique de la main tendue. Dire que parce que certains ont eu l'accord que ça met un terme, c'est quand même trop sévère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser et négliger ceux qui sont restés encore dans les liens de son accord. Il y a eu le gouvernement, 8 sont partis à CPC.
6.
Il y en a 6 seulement, vous voyez, sur 14. 6 sont partis à la CPC. Et les groupes armés majoritaires sont restés, M. Lacosso. Je ne comprends pas. Juridiquement, on dit que la démocratie, c'est le nombre qui compte. 6 seulement ont rejoint la CPC. 6 moins 14, je ne sais pas ma dimension, ça fait combien?
Qu'est-ce qu'ils apportent à la République, ceux qui les majorités qui restent? Ils apportent quoi à la République?
Donc, vous souhaiteriez que le gouvernement expulse encore les... Parce que là, dans ceux qui sont restés, il y a ex-Séléka, il y a d'autres mouvements.
Mais ceux qui sont restés, est-ce qu'ils respectent déjà les clauses de cet accord? Par exemple, le contenement de leurs éléments, le désarmement et la dissolution.
Ça, il reste. Donc, là, ça, c'est là où je dis, on doit en venir. Parce que il faut, dans le cas de USM.
Donc, ça veut dire que même s'ils restent, ça ne change rien. Parce qu'ils restent là, ils n'ont même pas cantonné leurs éléments, ils n'ont pas désarmé.
Il y a eu grande réconciliation au nord. On a organisé les partisans qui se rentraient dedans. Non, ils sont revenus ici à Bangui. On les a conviés, ils sont venus, ils ont signé un accord. Ça se passe là-bas au nord.
une réconciliation avec les documents, c'est réalisé ici à Bangui. Dans le sens, c'est aussi dans le cadre de cet accord.
Mais selon vous, l'idée principale au départ de cet accord, c'est quoi? Oui. C'est de trouver la paix.
La paix et la réconciliation.
Mais est-ce que la paix
entre
après cet accord 3 ans aujourd'hui?
Mais c'est un... Vous voyez, attendez. C'est un processus. On ne peut pas dire que c'est à un instant T, comme ça qu'on entendra la paix et la réconciliation nationale. Nous sommes des êtres humains. Chacun a ses faiblesses. Et même les acteurs, ceux qui ont contribué à élaborer, peuvent aussi déformer, non, c'est la conclusion à laquelle moi je suis arrivé dans mon article. Ce sont des êtres humains. Il y en a en fonction de leur intérêt, peuvent déformer, torpiller, faire avancer ou pas. On ne peut pas dire à 92%, ça n'a pas été respecté par le gouvernement, alors que bon, les documents officiels sortent. 90%, le gouvernement s'est acquitté de ses responsabilités, mais c'est de l'autre côté. Il fallait prendre des mesures de rétorsion. En fait, le groupe, les garants et facilitateurs devaient prendre. Mais là, comme ce n'est pas défini concrètement, l'article c'est annoncé, oui. Mais le détail, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc., ce n'est pas indiqué dans l'accord. Quelles mesures il fallait prendre, exemple, pour sanctionner, voilà. Et donc, le gouvernement était arrivé à dire bon, mais c'est un accord politique. On expulse ceux qui ont bénéficié des Marocains dans le gouvernement. Et il l'a fait. Donc, c'est des mesures de rétorsion qui font dans le sens. Et donc, moi, je trouve que. Non, entre nous, il faudrait qu'on se respecte. Ceux qui ont décidé de respecter, il ne faut pas faire table rase et puis les ignorer. Dire que, bon, les 6 sont partis et les 8 sont restés, bon, on ignore totalement. Et puis, donc, le chef de l'État, bon, c'est normal. Je comprends très bien la réaction de la cause. En fonction du nouveau contexte, normalement, en principe, oui. Puisque là, indépendamment, il y a, comme je l'ai dit,
une nouvelle perspective. Ceux qui sont restés dans l'accord peuvent participer au dialogue républicain.
Voilà.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
cet autre accord n'a plus de sens.
Voilà, mais au regard de tous les commentaires avancés sur l'existence de cet instrument de la paix, évidemment la PPR, quel est le vrai format qu'on pourrait réattribuer à cet accord, monsieur Karl Blaguet?
Je dis que l'APPR est déjà caduque. On ne peut pas le ressusciter. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Le dialogue républicain que je souhaite inclusif. L'échec cuisant de l'APPR ayant été constaté, il appartient au gouvernement et surtout au comité préparatoire. C'est très bien que l'opposition ait accepté justement de retrouver sa place là-bas. Mais il va falloir qu'au niveau des thématiques qui seront arrêtées, que les vrais problèmes soient exposés. Des vrais problèmes qui serviront d'alternative à ces histoires d'APPR et à la conférence de Grand Lac ou l'accord de Luanda. Entre nous, Centrafricains, quand nous nous retrouverons autour d'une table, c'est le moment ou jamais de débattre sur les vrais problèmes. Et pour débattre sur les vrais problèmes de ce pays, il ne faut pas exclure un seul leader ou acteur de la vie sociopolitique. Ce serait encore un énième dialogue. Pour exorciser ce mal définitivement, il ne faudrait exclure personne, que ce soit au niveau politique ou politico-militaire. Parce que dire non, on va au dialogue républicain avec une partie, une frange de la population, les autres, non. Mais petit à petit, les autres vont se réorganiser, ils vont s'énerver encore. Et bis repetita, trop c'est trop. Il faudrait que le chef de l'État fasse preuve de courage politique malgré les oiseaux de mauvais augure qui l'entourent, qu'il transcende tous ces clivages inutiles.
Non, je fais partie, moi aussi, oiseau de mauvais augure.
Celui qui se sent mon vœu se mouche, je n'ai cité personne.
Bon, voilà, monsieur Ndoui, quelques secondes ou une minute, je vous donne. Doit-on continuer à célébrer l'anniversaire de l'APPR ou réfléchir aux mécanismes pouvant
le réadapter? En fait, célébrer l'anniversaire de l'APPR, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un texte qui interdit de célébrer les anniversaires? Et pour célébrer l'anniversaire autrement?
L'anniversaire de ce qui existe.
Oui, l'anniversaire de ce qui existe. On peut célébrer l'anniversaire, on dit bon, ben là, ce qu'on fait, c'est l'anniversaire. Autrement, on peut organiser des débats autour, les forces et les faiblesses, etc. Ça peut faire partie de la dynamique. Et puis, là, on échange des idées. Moi, là, je dis, bon, si ça va, Gressin va publier mon article. Autour de cet article, on peut organiser une conférence et puis chacun intervient. C'est une manière aussi de célébrer l'anniversaire. C'est un document juridique qui est intervenu dans l'actualité politique de la République centrafricaine qu'on ne doit pas méconnaître. Voilà. Le secrétaire de Nations représentant spécial, est-ce qu'il est vraiment un stupide idiot quand il allait dire au Conseil de sécurité, avec l'APPR, il y a une réduction nette de la violence.
Je sais pourquoi il a dit ça.
Ah non, vous savez pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'on doit négliger cela? Il dit qu'il y a une réduction nette de la violence. Il y a l'extension aussi de l'autorité de l'État. C'est pas moi qui le dis.
Les secondes sont terminées.
Responsable.
Vos secondes sont terminées. Oui, monsieur Lacosso.
Il faut que les gens...
le gouvernement et même certains de ses partenaires insiste et signe, comme a dit M. Ndoui Abila, comme la MINUSCA, sur l'utilité de cet accord comme un moyen idéal pour la fin définitive de l'insécurité dans ce pays. Quel est le dividende, palpables de cet accord?
Ah, il faut leur poser cette question à eux. Moi, je n'ai pas vu les dividendes de cet accord. J'ai vu que notre pays a consenti d'énormes sacrifices, à violer sa constitution, à nommer des étrangers dans ses institutions, à donner des choses, mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et si le gouvernement n'avait pas eu des alliés pour aller combattre... Et puis aussi, je vais dire quelque chose de grave ici. Vous savez, le gouvernement s'est trompé, a fait un mauvais choix, a cru que ces gens étaient ses alliés. Et c'est pourquoi ils ne voulaient pas combattre avec... C'est un manque de vision. Mais lorsque ils se sont réorganisés pour venir le combattre, c'est à ce moment que le gouvernement a sorti des grands moyens pour les combattre. C'est dommage. Ça, c'est une attitude politique, ce n'est pas une attitude républicaine. On a fait ça pour protéger son fauteuil, mais pas pour protéger le pays, pas pour protéger tout le peuple. C'est dommage. Et je réponds à ce que je dis, si je sais pourquoi le secrétaire général des Nations Unies a dit que la PPRD a eu des avancées, mais parce que la PPR, c'est leur bébé. C'est eux qui ont fabriqué ça. Ils ne vont pas aller dire que la PPR, c'est mauvais. Ils avaient d'ailleurs dit pompeusement que c'est l'unique alternative pour la paix en Centrafrique. Comme si tout le monde suivait la PPR. Ils devraient avoir la paix en Centrafrique. Le gouvernement l'a suivi. Il n'y a pas eu la paix. Et ce qui m'étonne, ce qui nous écœure, c'est le fait que nos autorités politiques et certains intellectuels du pays continue à encenser ça. Si la MINUSCA encense la PPR, je comprends. Parce que ça fait partie des missions, de travail, de ce qui permet à la MINUSCA de continuer d'exister ici. En sens, non,
je reste avec vous pour boucler rapidement ce moment, ce débat. Bientôt la tenue du dialogue des républicains. Quel serait le parallèle entre la PPR et ses assises en préparation? Je parle du dialogue républicain.
Oui, le parallèle pour moi, c'est que ceux qui sont restés dans cet accord, qui ont définitivement déposé les armes et qui sont centrafricains, parce qu'il s'agit d'un dialogue républicain, peuvent être admis à ce nouveau dialogue, à condition, selon moi, que cet autre accord-là soit complètement dissous et éteint. On leur donne le droit de participer à ce dialogue, d'exprimer leur point de vue, parce qu'ils sont revenus dans la République. Ils redeviennent des citoyens. Et je suggérerais que cette même démarche soit faite à l'endroit de ceux qui ont encore les armes entre les mains aujourd'hui.
Au sein de la CPC.
Au sein de la CPC. Moi, je ne suis pas pour qu'on discute avec tout le monde dans la CPC. Non. On discute avec des centrafricains qui sont dans la CPC et on leur tend la main, on leur donne l'occasion de revenir dans la République. Et moi, je suggérerais que l'autorité suprême du pays et son entourage réalisent cela avant le dialogue républicain. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit des centrafricains. On ne va pas faire une politique de deux poids, deux mesures. On est en train d'entretenir la PPR, mais on ne peut pas refuser de discuter, de tendre la main aux compatriotes qui sont dans la CPC. Ils ont fait la même chose que les autres. Ils ont pris les armes, ils ont violé la Constitution, ils ont fait du mal à la République. Mais si on veut faire la réconciliation, il faut leur tendre la main. Mais on ne traite pas avec tout le monde. Ceux de nos compatriotes qui ont pris cette mauvaise voie, on leur ramène dans la République.
Je vous en prie, on est pressé par le temps. Oui, monsieur.
Non, dès la messagerie, merci. De la discussion, j'ai eu la lumière. Je souscris entièrement.
Parallèle Dieu entre merci. L'accord et l'accord de Khartoum.
L'accord de Khartoum,
la PPR est reconnue sur l'accord de Khartoum.
Bon, là, maintenant, on est maintenant sur les mêmes longueurs d'onde. Et qu'avant le dialogue politique républicain, le chef de l'État et ceux qui sont restés dans les liens d'accord, ils peuvent prendre la décision et dire voilà, on dissout intégralement l'accord pour nous permettre d'aller. Voilà, je suis d'accord, on ne peut pas. Ceux qui gardent encore, et que être dans la République, c'est respecter l'article 24. Hein. Tout citoyen habitant du territoire centrafricain doit respecter les lois et règlements, etc. Voilà, donc on ne prend pas les armes pour venir organiser un coup d'État pour prendre le pouvoir. Et donc tous ceux qui respectent cela, bon, ils sont bienvenus au dialogue républicain. Ceux qui ont encore les armes, non. Il y en a qui disent non, parce que bon. Pour résoudre notre conflit, il y a des anciens présidents, des anciens premiers ministres, etc. Bon, mais est-ce que les anciens présidents, les anciens premiers ministres ne peuvent pas contribuer autrement à l'évolution de la connaissance,
contribuer autrement
pour le développement, donner
l'animation
de la vie politique? Par exemple, là, il y en a qui disent, et que j'ai écouté hier le président de la Conouvelle, non, bon, Bozizé peut écrire des mémoires il a été au pouvoir pendant un certain temps, il peut écrire ses mémoires. Comme certains Sarkozy, il a écrit les mémoires,
donc
il dit le temps des tempêtes.
Retour,
le temps de tempête. Mais attendez, ne me perdez pas, il a écrit le temps des tempêtes, qu'il a montré comment il exerçait le pouvoir. Ça, ça reste, c'est des documents de support qui pourraient servir aux générations futures. À nous,
mais je dis, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il vienne.
Voilà, donc non, je
dis,
il peut participer autrement en rédigeant les mémoires de la gestion du pays et mettre ça à notre disposition.
Vous n'avez pas encore répondu.
Non, mais j'ai répondu, je dis pas forcément venez prendre part au débat, mais il peut participer autrement.
Donc, pour vous, qu'il soit en dehors de ce dialogue.
Non, pas en dehors. S'il renonce à la posture de la CPC, il revient, il n'y a pas de problème, il peut venir dire. Le chef de l'État est dans cette dynamique.
Monsieur Karl Blaguet, rapidement, sur la question parallèle entre le trait qui devait y avoir entre les deux.
Oui, mais c'est Armando, je pense que la dynamique du dialogue républicain inclusif devrait automatiquement justement annuler l'accord politique de paix et de réconciliation. Je ne vois pas l'utilité de l'APPR d'exister du moment où nous sommes dans une dynamique de dialogue républicain. Donc je pense qu'il faudrait peut-être au préalablement à ce dialogue républicain qu'il y ait peut-être une petite table ronde afin de manière consensuelle qu'il y ait dissolution de l'APPR en présence des garants et des facilitateurs.
Ça c'est la démarche juridique.
Mais bien sûr, mais on ne peut pas aller vers le dialogue républicain tout en suivant encore le processus de l'APPR. Voilà. Ce n'est pas possible.
Monsieur Karl Blaguet, monsieur Gervais Lacosso, monsieur Alexis Ndouyabila, fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Nous avons ensemble avec l'opposition, la société civile et le pouvoir analysé l'utilité de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, discuté à Khartoum au Soudan et signé à Bangui le 6 février 2019. Merci à nos invités d'être venus à ce rendez-vous tant aimé par les internautes et les auditeurs de Radio Ndekeluka. Vous pouvez réécouter ce débat en podcast sur www.radiondekeluka.org. Anne-Alix Pounemati, Rodrigue Leroy-Benga, Stéphane Flemalé et moi, Armand Nguindi, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Au revoir.